laisse la parole au Rafi Hafi, qui, je disais, parmi tous les domaines où il excelle, est ici ce soir en tant que fondateur et responsable du Centre Noir et Mondial. Et il nous parlera de la mouvance historique et aussi de l'actualité de Tricola. C'est moi qui rajoute.
Bon, bonsoir tout le monde et shalom. Je trouve très émouvant de voir qu'aujourd'hui il y a une réunion d'auditeurs et d'auditrices pour entendre parler du noirisme. Et que cette auditoire, justement, est d'origine juive pour la plupart. Et vous allez me dire, mais c'est évident, étant donné que le judaïsme enseigne le noirisme, donc ça va de soi que des juifs s'y intéressent. C'est tout à fait le contraire de la réalité. En général, quand vous demandez à un juif, est-ce que tu sais ce que c'est que le noirisme, il dit non. Ou dans le meilleur des cas, il dit, ah, alors c'est des évangélistes. C'est des évangélistes. Donc, en général, c'est un sujet mal connu et c'est assez surprenant, étant donné le fait que c'est tellement central dans la tradition d'Israël. Et je voudrais d'abord commencer par une idée qui a été diffusée par un juif loin de ses origines, Henri Bergson, philosophe, qui considérait que le christianisme est supérieur au judaïsme. Et la raison pour laquelle il disait ça, c'est très simple, c'est que le judaïsme parle d'un Dieu qui ne se préoccupe que de son peuple, tandis que le christianisme a élargi le champ d'intérêt de ce Dieu à l'humanité tout entière. D'accord ? Bon, en vérité, si on réfléchit bien, c'est n'importe quoi, mais il faut bien comprendre pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi. Tout d'abord parce que, quand on parle d'universalisme juif, c'est une évidence dès le départ, on est fait même de parler de peuple élu. Si on est élu, c'est qu'on est élu à partir de quelque chose. Ça suppose un arrière-plan. Ça veut dire qu'il y a une humanité derrière cette élection. Sans parler du fait que la Torah commence justement par le récit de cette humanité avant de parler de l'engendrement de l'identité d'Israël. Donc, c'est une évidence qu'il y a un universel. Sans parler du fait que lors de l'élection d'Abraham, je parle donc de la toute première origine de l'identité hébraïque, déjà dès le départ, il est dit « Et par toi seront bénies toutes les nations, toutes les familles de la terre. » Donc, on voit bien que ce projet, avant même que la Torah ne soit donnée aux enfants d'Israël, le projet existe, sans parler également de l'alliance de Dieu avec Noé et ses enfants, sur les sept lois noahides, et tout cela est bien antérieur à l'élection d'Israël. Or, c'est les textes de notre tradition qui le disent. Et puis après, vous voyez bien les personnages de Yitro, de Naaman, et de Yonah, qui se rangent à Ninive pour leur faire faire teshuvah chez les ennemis d'Israël. Et puis, les enseignements de Hillel, qui dit que c'est l'amour de toutes les créatures qui est l'enseignement de Hillel, de Aaron. Et puis Rabbi Akiva qui nous dit que tout homme est chéri parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc en fait, l'idée qu'il y a un universalisme dans le judaïsme est une chose qui saute aux yeux pour tout lecteur, disons, même superficiel, de la tradition juive. Sans parler évidemment des textes talmudiques qui, eux, rentrent dans le détail de ces lois. Et quand on parle du christianisme, par contre, vous connaissez le grand principe qui est qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc, d'une certaine manière, c'est un repli. Ce qui voudrait dire qu'un individu, même juste parmi les nations, s'il n'adopte pas la foi dans le dogme chrétien, est ipso facto évacué de la béatitude éternelle. Donc on se demande qui est le plus universaliste. Maintenant, toutes ces choses dont je vous parle, personne ne savait très bien. Et pourtant, il a quand même proféré une ânerie de ce genre. Et on peut se demander, mais pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, parce qu'il avait raison. Il avait raison sur le plan existentiel. Du temps de Bergson, rien de l'idéal universel du judaïsme ne pouvait s'exprimer. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que nous étions en lutte pour notre propre survie physique. La persécution faisait qu'il était impossible de remplir notre fonction. Et la deuxième raison, c'est qu'après l'émancipation, alors nous nous sommes occupés d'autre chose, de se fondre dans le décor, d'essayer de s'assimiler au possible dans la civilisation ambiante. Et donc, bien que le projet universel d'Israël fait partie intégrante de son être, eh bien, on peut dire existentiellement parlant, c'est Bergson qui avait raison. Mais le bon Dieu fait bien les choses. Il nous a ramenés ici. Il nous a ramenés ici, pas simplement physiquement. Nous avons également, politiquement, nous avons fondé un État. Et nous avons fondé également une société qui sert de modèle pour, malgré toutes les diffamations, qui est une société modèle sur le plan moral et de la sainteté. Et donc, notre rôle originel revient en place. C'est-à-dire, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un surplus ou un superflu que d'avoir un message universel, ce n'est pas en plus du judaïsme, c'est l'essence même. Il y a pour cela un slogan très intéressant, qu'on peut appeler un verset qu'on peut appeler le slogan du judaïsme. Peut-être que vous avez entendu parler. Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. On pense d'habitude que ce verset est un verset monothéiste, une proclamation de foi monothéiste. Et si vous rentrez dans le détail de cette phrase, vous voyez que ce n'est pas du tout monothéiste. D'ailleurs, je vais vous dire ce que dit Rashi de ce verset. Or, Rashi, c'est un interprète du Pshat. Que dit Rashi ? L'Éternel, qui est notre Dieu, et pas le Dieu des nations. Il dit en toutes lettres. Notre Dieu, et pas le Dieu des nations, sera un jour le Dieu de tout le monde. C'est-à-dire que donc, le schéma Israël, c'est une dynamique historique qui est engagée. C'est-à-dire, nous savons qu'au départ de l'histoire, Dieu se révèle à nous. Comme disait Blaise Pascal, si jamais la divinité s'est révélée aux hommes, c'est à eux, c'est aux juifs, qu'il faut s'adresser pour en recevoir la révélation. Et puis, après, ça s'épanche. Souvent, les goyim me posent la question, mais qu'est-ce que vous autres, les juifs, vous avez à nous donner? Alors on peut leur dire les sept lois noires. Si. Mais les sept lois noires, question immédiate de la plupart des goyim, mais c'est de la morale fondamentale. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas violer. Vous n'allez pas nous apprendre ça, nous le savons par la morale naturelle. Et je leur réponds, oui, mais ce que vous ne savez pas, parce que ce dont vous avez besoin, c'est d'une cheminée. Une cheminée. Le monde ressemble à une maison. Et cette maison a un toit. Le toit, c'est la protection que nous avons contre la rencontre avec l'infini. Vous vous rendez compte que ça serait que la proximité immédiate de l'éternel, c'est très dangereux, c'est dissolvant, c'est effrayant même. Le contact avec l'infini est un contact dangereux. Nous avons, Baruch HaShem, des écrans. L'écran de la nature, l'écran de la conscience, qui nous permet de nous promener dans ce monde sans connaître directement le bon Dieu. Mais une maison a quand même besoin d'être aérée et éclairée. Il faut donc une cheminée. La cheminée, c'est la cheminée vers la transcendance. Comme l'a dit le chef du mouvement Makuya du Japon, votre rôle à vous, c'est de rappeler au monde l'existence du tétragramme, Shem Havaya, Yudke Vavke. C'est important que le monde entier sache que ça passe par vous. Et donc, si vous voulez, nous sommes des ramoneurs. Nous sommes des ramoneurs, des cheminées du bon Dieu. Alors, c'est un peu salissant, vous savez, d'être ramoneur. On est parfois un peu sale. Et donc, on se fait critiquer. Mais c'est notre rôle. C'est ça que nous faisons. Et pour le faire, alors, il y a un enseignement. Cet enseignement, c'est l'enseignement du noirisme. Mais c'est quoi le noirisme? Eh bien, il y a, excusez-moi de vous citer tout le temps des goïms, mais il y avait un... Non, c'était pas un goï, c'était un juif. Il y avait un juif qui a dit, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. C'était le fondateur du christianisme, Paul, qui a dit, la loi est abolie. Ça ne veut pas dire que tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Donc il faut continuer à respecter la morale. Il y a une morale chrétienne, ça existe. Mais il faut, malgré tout, savoir que la loi, en tant que loi, est abolie. Pour le christianisme, la loi, c'est la pire des choses au monde. Pour une raison très simple, c'est que s'il y a une loi, il y a possibilité de transgression. S'il y a 613 commandements, donc il y a 613 péchés possibles. C'est terrible. On ne peut pas ne pas tomber dans le péché. Et donc, la solution qui a été envisagée par les fondateurs du christianisme, c'est de supprimer la loi tout en gardant le comportement. Tandis que nous, les enfants d'Israël, nous disons, mais pas du tout. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de contact avec le donneur de la loi. Et donc, c'est important que ces comportements, qui sont de la morale universelle, soient des mitzvot. Ce n'est pas tout la même chose. Si vous ne volez pas pour des raisons morales, et si vous ne volez pas parce que c'est un commandement de Dieu, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Mais si je ne vole pas pour des raisons morales, ce que ça me donne, c'est une plénitude morale. Mais si je ne vole pas parce que c'est un commandement, alors ça me donne un contact avec la transcendance, avec la vie. Et c'est ça que nous enseignons aux nations. La Guémara, dans le traité de Bava Kamma, page 38a, dit que les goïmes sont dispensés des sept lois noires depuis qu'ils ont transgressé. La Guémara se rétracte immédiatement et dit non, ils ne sont pas dispensés. Mais ils sont récompensés comme quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas une mitzvah pour lui. C'est exactement ce qu'appelle le polynisme. Refuser la loi tout en continuant de l'accomplir. Et ça veut donc dire que si on veut sortir de cette situation dans laquelle on n'a que la morale et non pas le contact avec le divin, il faut à nouveau accepter officiellement la loi noire. Et c'est exactement ce que nous faisons dans notre organisation Veritula. Nous avons un tribunal rabbinique devant lequel se présentent souvent des non-juifs. Ils disent, voilà, je viens faire ma déclaration d'acceptation de cette loi noire. Et d'après Maïmonide, enfin certaines interprétations de Maïmonide, c'est là qu'on sort du statut de ce qu'on appelle le goy au statut du ben noir. Le ben noir est un être vertueux qui peut mériter le olam. Il y a, dans les actions que nous menons, nous avons des contacts avec, et là c'est pour vous parler un peu d'actualité, nous avons des contacts avec des dizaines de groupes et d'individus, mais surtout des groupes de Noachides dans le monde entier. Récemment, je suis revenu d'un voyage dans l'île de Taïwan, où j'ai pu rencontrer le dirigeant d'un groupe de 1400 Chinois qui reconnaissent Israël comme étant le centre de l'humanité et qui œuvrent uniquement pour le peuple d'Israël, sans attache aucune avec le christianisme. Le grand rabbin de Jérusalem arrive. Nous recevons le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Aryeh Stern, qui vient honorer de sa présence notre assemblée et qui vient nous dire quelques mots de bénédiction que je vais traduire évidemment en français. Le Rav Stern a fait un effort important pour venir honorer de sa présence notre assemblée. Étant donné qu'on connaît l'importance du sujet. Alors, simplement, je voudrais finir, il me reste quelques minutes, donc je vais les exploiter, ne vous en faites pas. Il me reste encore 5 minutes, j'ai donc le droit de les exploiter. Et je voulais vous raconter un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous avons des groupes un peu partout dans le monde, donc j'ai commencé par l'Extrême-Orient, et puis ça continue du côté de Singapour, et puis de Philippines. Je vais rencontrer la semaine prochaine un dirigeant de 1000 Noachides des Philippines. Il y a également un groupe de 200 familles en Inde, sans parler de ce qui se passe également en Afrique, en Europe. En Europe, vous connaissez ça, mais vous vous rappelez du congrès qu'on a eu à Rotterdam avec le groupe de Oel Abraham qui comporte entre 50 et 100 familles de Noachides, sans parler de ce qui se passe également aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Océanie, en Australie. Et j'en passe, en tout cas, il y a actuellement un intérêt très profond pour la Torah d'Israël, pour une raison très simple, c'est qu'il y a de grands problèmes, de grandes questions qui sont posées aujourd'hui par l'humanité, et nombreux sont ceux qui considèrent que la Torah d'Israël a des réponses à leurs besoins. C'est pas simplement la pratique des sept commandements, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'adhésion à un projet universel qui va amener, finalement, la présence de Dieu sur Terre, la paix universelle, tout ce que cela représente. Vous allez simplement vous dire que nous sommes actuellement dans l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Par exemple, celle du prophète Zacharie qui nous dit que viendra un jour où de nombreuses nations s'associeront à l'Éternel et seront pour moi un peuple. Et ça ne veut pas dire que nous cessons d'être le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple, nous sommes le premier. Et nous apprenons aux autres nations comment sanctifier leur vie. Et là, nous recevons tous les jours une masse très importante de questions dans toutes les langues du monde qui nous sont adressées pour des questions de halakha, mais également des questions de morale et des questions de imouna. Et je pense que c'est assez, disons, c'est assez émouvant de se trouver dans le foyer de ces intérêts-là. Je tiens à vous signaler également que ce n'est pas simplement une initiative personnelle. Nous avons reçu la bénédiction des grands rabbins d'Israël, et également du Rambam Chaïa Zichrono Livracha, et également celle écrite de sa propre main du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui également encourage notre action. Donc, en fait, nous sommes encore à un début. J'ai évalué le nombre des noachides conscients de leur noachisme actuellement dans le monde à quelque chose comme 30 000 personnes. Mais quand on voit les ondes d'intérêt qui sont portées à notre mouvement, nous ne pouvons qu'être optimistes et voir très bientôt, dans les décennies à venir, une transformation profonde de la spiritualité et de la moralité dans le monde. Maintenant,